Nous terminons donc cette journée d'études dédiée à la démocratisation de la culture par le livre et la lecture, par un hommage à Jean-Pierre Seguin. Jean-Pierre Seguin qui, entre autres, parce que sa carrière au sein des bibliothèques a été longue et riche, mais entre autres présente un homme très important pour la Bibliothèque publique d'information, puisqu'il a été donc à l'origine de la création de la BPI. Il a été le premier directeur de la BPI, comme je vous le disais ce matin, il nous a quittés l'année dernière, fin 2014, et un certain nombre de collègues et d'amis souhaitaient s'associer à l'hommage que la BPI avait envie de lui rendre. Je voudrais remercier tous les collègues qui nous ont rejoints, collègues en service ou plus en service, les anciens directeurs de la BPI ou directeurs adjoints, qui nous ont également rejoints, dont un certain nombre ont passé la journée avec nous. Cinq directeurs de la BPI sont présents aujourd'hui, ici, dans la salle. Je voudrais particulièrement remercier Michel Melot, qui, sans lui, nous n'aurions pas réussi à monter cette journée. Je voudrais particulièrement remercier Yves Alix, également, qui s'est associé au fait que ce temps d'hommage puisse avoir lieu aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Seguin, ainsi que l'un des fils de Jean-Pierre Seguin aujourd'hui. Et je voudrais remercier les collègues et amis qui sont à la tribune, en plus de Michel Melot. Si je commence par le bout de la table... je remercie Isabelle Giannatasio, d'être présente. Je remercie Françoise Godet d'être présente. Je remercie Jacqueline Sanson, Michel Melot donc, et Alain-Marie Bassi pour l'hommage qui va être rendu maintenant. Voilà, un très grand merci.
Eh bien, merci de nous accueillir. Le Centre Pompidou a récemment perdu deux de ses fondateurs, Pierre Boulez et Jean-Pierre Seguin. On a beaucoup parlé, avec justice, du premier. On a beaucoup moins parlé du second, mais c'est normal. Les bibliothécaires sont des gens modestes qui s'effacent volontiers devant leur public. Et pourtant, en ce qui concerne la démocratisation de la culture, ils sont terriblement efficaces. Donc, nous allons en parler dès maintenant, rapidement, avec mes quatre collègues qui m'accompagnent. Oui, Boulez et Seguin, qui s'entendaient bien, parce qu'au Centre Pompidou, il y avait deux... C'est un peu comme sur un catamaran, ça y est, deux flotteurs. Il y avait le musée qui fonçait au milieu, puis deux flotteurs qui équilibraient les choses, la BPI d'un côté, l'IRCAM de l'autre, avec le soutien, heureusement, inébranlable de monsieur et madame Pompidou contre les autres forces qui faisaient tout pour écarter ces deux gêneurs qui étaient l'IRCAM et la BPI. Mais l'un et l'autre, donc, Boulez et Seguin, ont fait tomber des murs institutionnels. Ils ont bousculé le confort intellectuel, ils ont transgressé les habitudes. Et l'un et l'autre se sont attirés pour ça des animosités féroces. Mais l'un comme l'autre avait suffisamment de ténacité pour rester au-dessus de ces débats souvent partisans et pour contourner les embuscades qui leur étaient tendues. On les a accusés d'hérésie, on les a accusés d'utopie, on les a accusés d'accaparer les moyens, ce qui n'était pas totalement faux, mais ils ont répondu par l'exemple. Ils ne se sont pas prêtés aux polémiques, ni l'un ni l'autre. Ils ont répondu en réussissant leur pari. De 1962 à 1977, Jean-Pierre Seguin a conçu, on peut dire presque entièrement, et construit cette bibliothèque. Contre vents et marées. Pour mesurer les difficultés qu'il a eu à surmonter et... à vaincre, je vous conseille la lecture de ses mémoires qu'il a accepté de rédiger, comment est née la BPI, invention de la médiathèque, et vous comprendrez drames que tout cela a recouverts, les difficultés qu'il a courageusement surmontées. Ça se lit comme un roman, je dirais même comme une épopée parfois, parce qu'il a dû se battre constamment contre l'éducation nationale, par exemple, qui ne comprenait pas, qui n'admettait pas qu'une bibliothèque est un ordinateur. Il fallait utiliser l'ordinateur de l'administration centrale, avec son vocabulaire incompréhensible et ses procédures. Il a dû se battre, Jean-Pierre Seguin, contre les syndicats, qui n'admettaient pas que l'on puisse ouvrir une bibliothèque le dimanche, y compris à Noël et au premier de l'an. Il s'en est sorti en leur concédant le 1er mai. C'était une bonne réponse. Il s'est battu contre les bibliothécaires, qui lui ont réservé leurs flèches les plus acerbes. Il ne s'agissait pas, quand on relit cette histoire assez curieuse aujourd'hui, ce n'était pas les conservateurs traditionnalistes qui s'opposaient à cette entreprise folle de Beaubourg. Mais c'était les plus avancés, les plus progressistes, comme ce bibliothécaire de Cambrai qui avait inventé pourtant le mot médiathèque en 1975 et qui, pour ça, doit en être chaudement félicité, un homme courageux, mais qui s'est répandu en violence contre la BPI d'une façon inexplicable. Il appelait la BPI Luna Park et il n'avait pas de mots assez durs pour stigmatiser ce projet qui, selon lui, était une absurdité. Il n'était pas le seul. Alors, ignorant les querelles de parti qui divisaient beaucoup les professionnels, Jean-Pierre Seguin est allé seul, tranquillement, je n'en sais rien, mais en tout cas décidément, aussi loin que possible dans l'élargissement du public et dans l'élargissement des missions de la lecture publique, qu'il a poussé, je crois, à leur maximum, en instituant non pas seulement le libre accès aux documents, qui étaient déjà pratiqués, bien que difficilement, mais enfin quand même, aux appareils de lecture, ce qui était beaucoup plus rare, sans aucune sélection. Accès à tous les documents, tous. Mais surtout, accès à l'entrée de la bibliothèque, accès totalement libre à l'accès de la bibliothèque, gratuitement, de façon illimitée, et sans discrimination aucune de niveau d'études, rien. Sans aucune formalité. Ça, c'est assez exceptionnel encore aujourd'hui. Il dispensait même le lecteur de cette intimidation qu'on impose généralement au public au seuil de tout édifice culturel. Finalement, quand j'ai dit sans discrimination, aucune, c'est pas vrai. Il y en avait une. Les adultes étaient interdits dans la bibliothèque des enfants. Ça, c'était la seule discrimination qu'il ait instituée. Donc, il avait cette générosité d'ouvrir toutes les portes à tout le monde, tout le monde. Et au cabinet des Estampes, où j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler sous ses ordres, son rêve, c'était de donner accès au public au magasin, ce qui était un peu là utopique, il s'en rendait bien compte, ce n'était pas possible. Alors, faute de quoi, il a entrepris le microfilmage systématique des collections, qui s'avère aujourd'hui très utile à l'heure de la numérisation, mais qui ont beaucoup choqué, là aussi, il s'est fait beaucoup d'ennemis dans le milieu de l'édition et dans le milieu des érudits qui se voyaient dépossédés de leur privilège d'avoir accès à l'original. Et il a été aussi celui qui a impulsé la fabrication du premier vidéodisque français, ce qui aujourd'hui est important parce que c'est l'ancêtre des DVD, c'était en 1980. Donc voilà ce que j'ai vécu avec lui au cabinet des Estampes, où l'on pensait, quand il y est arrivé, qu'il n'était pas vraiment compétent dans la matière d'image. Ce n'est pas là qu'il s'était illustré à la Bibliothèque nationale où il dirigeait les imprimés, ni à Beaubourg, où il avait accordé aux images, on va en reparler tout à l'heure, une grande importance. Mais croire qu'il n'était pas compétent, c'est une grave erreur. D'abord, il connaissait bien l'art contemporain. Il était grand amateur d'art contemporain, courait les galeries. Il avait été formé au Centre Pompidou, avec Pontus-Ultène, avec Boulez. Donc, il était très averti en art contemporain, très amateur, et sa passion, c'était plutôt l'imagerie, c'est-à-dire l'image la plus démocratique, justement, la plus pauvre, les pauvres images. D'ailleurs, il y avait cette formule, il n'y a pas de pauvres images pour des yeux curieux. Donc sa passion, c'était l'imagerie. Alors on a rappelé tout à l'heure le papier peint. Je ne savais pas qu'il s'en était occupé dès le Centre Pompidou, mais en tout cas, je sais qu'au cabinet des estampes, il a fait rentrer des collections de papier peint. Mais la photographie, bien sûr. La photographie, pas forcément sous ses allures de vintage, mais aussi bien photographie de presse. Moi, je l'ai entendu avec ravissement un jour faire une conférence passionnante sur, c'était à la Société du Vieux Papier, sur le langage des fleurs, qu'il connaissait parfaitement, qu'il avait étudié à partir de la collection, paraît-il, remarquable de la bibliothèque de l'Arsenal où il avait travaillé. Donc, il avait suivi les traces de l'ethnologue Jack Goody, qui s'était intéressé aussi à ce sujet du langage des fleurs, pour vous dire son ouverture d'esprit et sa compétence due surtout à sa curiosité. Une autre de ses publications que je vous conseille de lire, parce qu'elle n'est peut-être pas assez connue, c'est l'édition qu'il a faite de la règle des écoles de Jean-Baptiste de La Salle, fondée en 1658. Et le titre porte de cette règle des écoles pour des enfants en faveur de l'enseignement des enfants pauvres. Il a donc republié ce texte du XVIIe siècle. Et je me souviens qu'il m'en parlait en disant qu'il avait admiré dans l'attitude, dans le militantisme de Jean-Baptiste de La Salle, le fait qu'il exigeait que les élèves, pauvres ou riches, portent tous le même tablier. Et c'est un peu l'esprit qu'il a voulu continuer au Centre Pompidou. Tout le monde est accès. On n'exclut personne. C'est très simple. Dans ce même volume, d'ailleurs, vous retrouverez un texte qu'il a exhumé, peu connu, très peu connu lui aussi, qui est un texte de Bergson, un discours que Bergson avait fait à l'occasion d'une distribution de prix et qui s'intitule « La politesse ». Eh bien, je souhaiterais qu'on relise aujourd'hui ce livre, ce ne serait pas toujours inutile. Voilà comme il était, comme moi en tout cas je l'ai vécu, apprécié et admiré, discret mais ambitieux. Il n'arrêtait pas de me répéter « le pouvoir est à prendre ». Et souple, mais rigoureux, intraitable même, lorsqu'il s'était bien assuré de la justesse de sa position. Et c'est le conseil qu'il m'avait donné, avec les négociations, notamment avec le personnel. Il faut vous faire une idée juste, tant pis si elle vous est défavorable. Une fois que vous êtes assuré de cette justesse, vous n'en bougez plus. Alors, on n'a pas fini de tirer les leçons de, non seulement de son œuvre, dans laquelle nous nous sommes ici, dans ce Luna Park, comme disait M. Bouvy pour le... Nous sommes dans ce Luna Park, mais ce n'est pas seulement ça que l'on admire en lui, c'est aussi sa façon qu'il avait de diriger. Et dont il faut vraiment encore s'inspirer, je crois. Alors, pour le faire... Oui, je pense qu'une heure serait un peu juste pour tirer toutes ces leçons. Enfin, on aura d'autres occasions, j'espère. Alors, je remercie mes quatre collègues d'avoir accepté d'évoquer leurs propres souvenirs. Tous les quatre ont bien connu Jean-Pierre Seguin, ont travaillé sous sa conduite. Et Alain-Marie Bassi, d'abord, qui est entré à la BPI en 1977, vous m'avez dit
76.
76, donc avant l'ouverture. Pour une chose innovante, des choses innovantes, il en a fait plein, mais j'en ai retenu quelques-unes, dont celle d'un service qu'il avait créé, qu'il a demandé à Alain-Marie Bassi de créer, pour étudier le comportement des lecteurs, la lecture, ce qu'aucune bibliothèque ne faisait de façon systématique. Et c'est ce service des études et recherches, qui est d'ailleurs l'un de nos hôtes aujourd'hui avec Christophe Evans, qui est l'un de ses successeurs. Ce service inédit dans les bibliothèques a fait des petits, heureusement, et est aujourd'hui quelque chose de tout à fait louable. Isabelle Giannatasio a été chargée d'une autre innovation, c'était de faire pénétrer l'image dans la bibliothèque. Et ça non plus, ça n'a pas été facile. Moi, j'étais à ce moment-là au cabinet des estampes et je sais tous les critiques plus ou moins violentes que valait cette ambition de mettre des images dans les bibliothèques. Ça paraissait hérétique, contre-productif, aller contre l'éducation des enfants. Et ben là non plus, c'est aussi incontournable maintenant, les images dans les bibliothèques. On ne se pose même plus la question, bien sûr, il en faudra de plus en plus. Et Isabelle était l'une de celles avec son équipe, je crois que Claude Collard est dans la salle aussi, pour mettre, c'était pas facile, de mettre en accès libre des diapositives, et puis il y avait aussi l'équipe de vidéo, quelques survivants de l'équipe de vidéo sont là également. Bref, c'était une grande innovation. Je me souviens qu'il avait fait procéder avant, pour se protéger, à une enquête, auprès du, enquête de sociologie auprès du grand public. Souhaitez-vous voir des images dans les bibliothèques ? Et moi, comme lui, sans doute, on s'attendait à ce qu'on dise bah « Oui, bien sûr, ce serait bien ». Mais pas du tout. Les gens, ils s'en fichaient complètement. Ils n'avaient jamais vu d'images dans les bibliothèques, donc ça ne leur manquait pas, puisqu'ils ne savaient même pas qu'une bibliothèque pourrait proposer des images. Donc l'enquête a été totalement étouffée. Je crois qu'elle a disparu, c'est aussi bien. Non, elle ne la connaissait pas. Non, moi, j'ai brûlé l'exemplaire. Ça n'intéressait personne. Il l'a fait quand même. Il a dit il faut les images dans les bibliothèques. Et il y en a, et il y en a beaucoup, et de plus en plus. Jacqueline Sanson, alors, le connaît bien aussi, parce qu'elle a été l'un de ses successeurs ou successeurs au département des imprimés, où Seguin s'était illustré par la surélévation des magasins, dans des conditions dont elle va nous parler. Donc, il avait fait déjà preuve de la maîtrise de la direction de travaux. Et puis ensuite, l'a retrouvée au cabinet des estampes. Nous avons le plaisir de travailler ensemble. Et puis Françoise Godet, qui avait 23 ans quand vous êtes entrée, embauchée par la BPI, et qu'elle n'a jamais quittée. Donc, la voilà revenue aujourd'hui pour nous parler de cette longue expérience qu'elle a eue, heureuse expérience, et qui a été aussi chargée d'un autre dossier lourd, contesté, combattu, mais que finalement existe grâce à elle et à Claudine Lieber, qui était votre collègue, du désherbage. Vous savez combien le désherbage dans les bibliothèques a été critiqué. Bon, eh bien, on le doit à Claudine Lieber et Françoise Godet, qui ont à elles deux rédigé un manuel pour faire ça proprement et pas de façon sauvage, comme ça s'est fait. Voilà tout ce que nous avons à dire en peu de temps. Si d'autres personnes, bien sûr, dans l'assistance, souhaitaient apporter leur témoignage, eh bien, elles seront les bienvenues. Mais je passe tout de suite la parole à Alain-Marie Bassi.
Merci, Michel. Vous m'engagez à un travail difficile parce qu'il s'agit d'évoquer des souvenirs vieux de 40 ans. Aujourd'hui, comme disait Victor Hugo, tout ceci se passait dans des temps très anciens. La terre était encore humide du déluge. Mais je vais essayer tout de même de rassembler mes souvenirs. Donc, de l'année de septembre 76 jusqu'à septembre 79. Moi, j'ai quitté la BPI en septembre 79. Donc, je suis resté 3 ans, mais une seule année avec Jean-Pierre Seguin, puisque Jean-Pierre Seguin a quitté la BPI peu après l'inauguration, en août 1977. Alors, si on me demande d'évoquer Jean-Pierre Seguin, j'ai un peu réfléchi, et je pense que c'est à la fois, pour moi, un personnage, d'abord. C'est également une méthode. Et puis, ce sont quelques intuitions majeures, je pense, sur la lecture publique. Donc, je vais essayer de vous présenter ces 3 points. Alors, le personnage, d'abord. C'est d'abord une silhouette, pour moi, Jean-Pierre Seguin. C'est une casquette et un loden vert perché sur un vélo Solex. C'est un personnage à mi-chemin entre Monsieur Hulot, moins la naïveté, et Sherlock Holmes, plus l'humanité. Mais c'est cette image, d'abord, qui me saisit lorsque je repense à Jean-Pierre Seguin. Et Jean-Pierre Seguin, c'est également un conservateur, pas conservateur. Il est conservateur de bibliothèque, mais en même temps, il se défend, et on le voit par toute son œuvre, d'être conservateur. Et il se décrit lui-même, d'ailleurs, dans un entretien, comme le bibliothécaire que je n'ai jamais été. Le troisième point, c'est de ce portrait chinois, là, c'est un intuitif. C'est un intuitif beaucoup plus qu'un organisateur rationnel ou un bureaucrate ou un théoricien. C'est un intuitif, c'est l'homme des intimes convictions. Et puis, quatrième point, il faut bien l'évoquer, c'est un séducteur. C'est un séducteur qui jouait de son charisme, qui jouait de son mystère parfois, ou de la fascination qu'il exerçait, comme le cobra, sur les personnes qui l'entouraient. Il aimait d'ailleurs s'entourer de collaboratrices. Il faut dire que dans le monde des bibliothèques, il n'avait pas de problème. Mais généralement, il les choisissait bien et il leur déléguait entièrement sa confiance. Voilà pour le personnage. Alors la méthode, son discours de la méthode, qui était somme toute fort peu cartésien, reposait sur des intuitions et des convictions intimes. La première de ces intuitions, que d'ailleurs soulignait Michel Melot tout à l'heure, c'est sa souplesse en même temps que son opiniâtreté. C'est une patience énorme et une adaptation permanente devant les obstacles rencontrés. Parce que il faut bien mesurer que depuis 62 ou 63, moi j'ai lu ailleurs, c'était 63, vous avez dit 62. Depuis 1963, date à laquelle lui fut confiée cette mission, jusqu'en 1977, il a porté à bout de bras ce projet, qui est un projet finalement à géométrie variable. N'oubliez pas qu'au départ, on était parti de la salle B de la Bibliothèque nationale, puis on a conçu la Bibliothèque des Halles. Moi, quand je suis rentré en 76, on parlait encore de la Bibliothèque des Halles, la petite plaque à l'entrée des bureaux où on préparait ça de l'autre côté du boulevard Sébastopol. C'était Bibliothèque des Halles. Eh bien, il a porté ça jusqu'au bout et il a dû affronter des obstacles multiples à chaque fois. Avec souplesse, mais opiniâtreté, car il savait préserver l'essentiel, il a réussi à faire progresser et à maintenir le projet. Deuxième point de la méthode, c'est, et je crois qu'il faut en parler pour lui rendre hommage, parce que c'est une qualité qui n'est pas si courante, c'est un art très subtil du management des personnels. D'abord, ces procédures de recrutement. Il ne faut pas oublier qu'il a recruté, souvent au feeling, à la suite d'entretiens, au feeling, des collaborateurs toujours jeunes. On a rappelé tout à l'heure pour Françoise, des jeunes collaborateurs ou collaboratrices, souvent hors du champ des bibliothèques, qui n'appartenaient pas au corps des bibliothèques. Donc ce recrutement abondant, puisque très rapidement, il a fallu étoffer la bibliothèque. Le deuxième point, et qu'il revendique, c'est donc l'absence délibérée d'organigramme hiérarchique ou d'organigramme fonctionnel dans la bibliothèque. Finalement, si on y réfléchit bien, il avait inventé ce que nos consultants aujourd'hui ont créé dans les entreprises, qui sont les chefs de projet. Finalement, il travaillait avec des chefs de projet et non pas avec des directeurs de département, des sous-directeurs, des directeurs adjoints, etc. Le troisième point de cet art du management, c'est le fait de suggérer, la suggestion, beaucoup plus que la directivité. Quand il avait un projet en tête et qu'il contactait l'un de ses collaborateurs pour le prendre en charge, il lui suggérait des pistes, des attentes, mais il restait très vague sur les détails du projet, sur les choix à faire, et ça restait à la charge de celui à qui le projet était confié de précisément apporter, mettre en forme, lécher cet ours mal léché qu'on lui avait donné entre les bras. Et puis, le dernier point, je ne sais pas si je suis le seul à m'en souvenir, mais c'est une pratique qui finalement était très, très astucieuse du doublonnement, ce que j'appellerais le doublonnement. C'est-à-dire que très souvent, la même mission, sous des aspects un peu différents, était confiée à deux personnes à la fois, de manière à faire finalement émerger un projet qui soit plus abouti, parce que en fin de compte, on confrontait les deux propositions qui souvent étaient différentes, et on les réunissait, et généralement d'ailleurs, comme par miracle, ça correspondait à l'idée que Jean-Pierre Seguin avait depuis le départ dans la tête. Troisième point de méthode, c'est la remise en cause permanente des modèles existants. Si vous y réfléchissez bien, de la salle B de la Bibliothèque nationale jusqu'à la BPI, en passant par la Bibliothèque des Halles, etc., tout a été réinventé. Tous les modèles traditionnels de la lecture publique ont été remis en cause. Bon, l'absence de prêt, d'abord, qui a été souvent reprochée à Jean-Pierre Seguin, il a tenu bon. L'accès au magasin ou le semi-accès au magasin, le désherbage périodique, les heures et les jours d'ouverture que rappelait Michel Melot tout à l'heure, l'intégration des différents supports d'information, donc l'image, l'audiovisuel, etc. Alors, souvent, on a dit, oui, mais il avait voyagé aux États-Unis, il avait voyagé en Grande-Bretagne, il avait vu Boston, il avait vu Camden, etc. En fait, il a fait que recopier les modèles existants. Pas du tout. Les modèles étrangers, là aussi, il s'en est inspiré sur certains points, mais il n'était en aucun cas question de les décalquer, ne serait-ce que sur le problème du prêt, par exemple. Là, on voit qu'il a tenu bon. Cela lui a même été reproché par certains bibliothécaires étrangers qu'il visitait. Alors, tout ça, tout ce personnage, cette méthode... Et vous voyez bien que ça aboutit à un certain nombre de conceptions, de concepts qu'il a agités, et ce que j'ai appelé ses intuitions majeures. Je crois qu'il a eu, avant beaucoup d'entre nous, des intuitions sur ce que devait devenir, comment devait évoluer la lecture publique. Alors, pour preuve, c'est les deux missions qui m'ont été confiés à mon arrivée à la BPI, donc en septembre 1976, de manière à ébaucher une fonction études et recherches. Alors, j'avais été reçu par Jean-Pierre Seguin, il m'avait dit, toujours sa manière très, très, très suggestive et un peu imprécise, il m'a dit, voilà, il y a deux missions dont je voudrais que vous vous occupiez. La première, c'est que vous réfléchissiez, alors je ne savais pas très bien ce que voulait dire réfléchir, hein, mais que vous réfléchissiez au langage de description dans le cadre de l'informatique documentaire. Essayez de trouver un nouveau modèle d'organisation en thésaurus qui échapperait aux classifications traditionnelles, qui permettrait de mieux comprendre le contenu de la bibliothèque. Et puis, il me dit, je voudrais aussi que, dès l'ouverture, vous mettiez en place des dispositifs d'observation des comportements et des stratégies d'utilisation des différents publics, donc dès l'ouverture de la bibliothèque. On était six mois avant. Alors, je me suis un peu interrogé, parce que je trouvais, au départ, que ces deux missions étaient apparemment disjointes, qu'elles n'avaient que peu de rapport l'une avec l'autre, l'une étant vraiment documentaire et bibliothéconomique, l'autre étant plutôt d'ordre sociologique. Et je me suis aperçu après coup que finalement, ça trahissait des intuitions véritables sur ce que devait devenir la lecture publique. La première intuition, je crois, qui était en germe dans cette double mission, c'est que la bibliothèque est à considérer comme une totalité, comme un projet total d'information, hein, ou ce qu'on pourrait appeler une architecture informationnelle, et également un parcours ouvert qui associait des espaces divers, parce que n'oubliez pas qu'à cette époque, alors aujourd'hui, malheureusement, peut-être, tout s'est un peu modifié, mais il y avait la salle d'actualité, il y avait la bibliothèque des enfants, il y avait les espaces de lecture, il y avait les espaces de recherche documentaire, il y avait le laboratoire de langue. Donc tout cela, donc d'une part des espaces divers et d'autre part des supports divers, puisque le multimédia, on trouvait aussi bien des images, des microfilms, des films, le laboratoire de langue, etc. Et tout cet ensemble, cette architecture informationnelle, avait à charge de les articuler dans une cohérence d'ensemble et à ménager en même temps toutes les stratégies possibles d'appropriation par les publics. Finalement, Je me suis demandé, après coup, si après beaucoup d'années, si Jean-Pierre Seguin n'avait pas inventé en 1977, entre quatre murs de verre, un espace de savoir, un jardin d'acculturation qui était assez voisin de l'Internet d'aujourd'hui. La deuxième intuition majeure, c'est que la bibliothèque, qui est donc une organisation de l'espace et du savoir, dépend finalement tout autant de celui qui l'a produit que de celui qui l'utilise et se l'approprie. Donc, pour dire ça en termes très pédants, si vous voulez, le paradigme classificatoire et hiérarchique de la bibliothèque, du classement des objets, ne prend son sens que dans un syntagme de contiguïté à la fois des espaces et des objets. Et c'est ce que, d'ailleurs, d'un très joli mot, Jean-Pierre Seguin, empruntant ce joli mot à Robert Mandrou, appelait la bibliographie déambulatoire. Donc c'est sa deuxième intuition majeure. La troisième intuition majeure, c'est que les modèles bibliothéconomiques qui sont définis par le bibliothécaire doivent être, vous le sentez bien, constamment adaptés en fonction des stratégies des différents publics. Donc des stratégies qu'on peut certes orienter, mais qu'on ne peut en aucun cas maîtriser entièrement. D'où la nécessité, à ce moment-là, je comprends la deuxième mission, d'études psychosociologiques, et pas seulement sociologiques, psychosociologiques et comportementales, au-delà des simples statistiques de fréquentation. On s'est bien aperçu, d'ailleurs, on avait fait à la fois des statistiques de fréquentation et ensuite on a fait des études comportementales et psychosociologiques, et on s'est bien rendu compte que la statistique de fréquentation, les frontières des statistiques de fréquentation, c'était le sens de ma remarque tout à l'heure, ne correspondaient pas du tout aux différentes stratégies observées ou évoquées dans la bibliothèque publique. Et la quatrième intuition majeure, c'est qu'il pressentait que cette bibliothèque, qui était d'un nouveau type à l'époque, qui vraiment était nouvelle, allait forcément attirer et accueillir un public nouveau, un public de deuxième génération. C'est d'ailleurs ce qu'on a qualifié d'amateur ou technicien dans la première étude que nous avions menée, qui a été remise en 1979, je crois, qui s'appelait L'entonnoir, l'épuisette et l'hameçon, parcours et stratégie d'une bibliothèque publique, l'exemple de la BPI. Et donc ce public de deuxième génération était très, très, très nettement identifiable par son type de rapport au savoir, celle d'une culture, comme aurait dit Abraham Moles, mosaïque, avec des champs particuliers d'investigation discriminante, certains points, et qui était en quête d'information. On oublie trop souvent que la bibliothèque, ici, s'appelle bibliothèque publique d'information. Ce n'est pas une bibliothèque de lecture, c'est une bibliothèque d'information. Donc, en quête d'information à la fois large et progressivement approfondie, et caractériser ce public par son appropriation de l'espace culturel et des stratégies d'utilisation des supports d'information qui étaient tout à fait particulières. Alors voilà les quelques mots que je voulais dire pour rendre hommage à Jean-Pierre Seguin. Et en conclusion, je dirais que on dit que Jean-Pierre Seguin est le créateur d'une bibliothèque. Je crois que beaucoup plus, il est le créateur d'un concept, et que ce concept, il préfigure largement dans l'esprit, sinon dans la lettre, la révolution de l'information numérique aujourd'hui.